7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque mois, c'est le rendez-vous des tchatcheuses. Aujourd'hui, trois femmes journalistes de trois continents viennent commenter l'actualité de leur choix avec trois agitateuses autour de la table. Aujourd'hui, on a la journaliste allemande Ulrike Koltermann. Guten Tag, Ulrike.
Guten Tag.
Wie geht's?
Sehr gut.
J'ai révisé mes tablettes. La journaliste chilienne Paola Martinez. Hola.
Hola, Emmanuel.
Et la Benjamin des tchatcheuses, la journaliste béninoise Prisca Oguma. Bonjour Prisca.
Bonjour, on dit pas bonjour enfant. Hein,
attendez, j'ai peur de m'attirer des ennuis ensuite avec des rivalités linguistiques. Vous sévissez entre autres sur Canal Plus Afrique, c'est bien ça?
C'est toujours ça.
Et quant à vous, les voisines journalistes dans votre pays, si vous avez envie de faire passer vos coups de gueule, vos coups de cœur, il est encore temps, vous pouvez nous téléphoner. Le standard est toujours ouvert, y compris le jour des tchatcheuses. Certes, seulement aux femmes journalistes, 33 1 84 22 71 71, ou bien évidemment vous pouvez nous laisser des messages sur le fil Facebook.
Les tchatcheuses, elles ont du caractère.
Les tchatcheuses, elles parlent beaucoup de choses.
Elles décident pour elles-mêmes, elles sont en bande.
Elles parlent de tout.
Ça parle. Moi j'aime bien les tchatcheuses.
Ulrike Koltermann, vous vous interrogez sur évidemment les récentes manifestations anti-israéliennes en Europe contre l'offensive militaire dans la bande de Gaza, plus précisément, et sur l'antisémitisme déguisé à la sauce anti-sioniste. Voilà en gros les débats ces derniers jours.
Bah, évidemment, en tant qu'Allemande, on est très très sensible à ces sujets. Et en Allemagne, c'était pareil, il y avait des manifestations anti-israélien, mais c'est devenu antisémite. On a crié des paroles antisémites et d'un coup, c'est l'excitation partout. Il y a des politiciens qui disent, oulala, c'est comme en 38, il faut faire attention dès le début. Mais je pense qu'il faut faire très très attention à ne pas trop mélanger les choses. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle forme d'antisémitisme ou est-ce qu'il faut plutôt voir le lien avec les événements à Gaza, qui quand même, c'est une prison à ciel ouvert et il se passe des choses horribles. Si on regarde les nombres de victimes des deux côtés, on peut comprendre la colère de ceux qui veulent manifester. Si en plus le gouvernement français par exemple décide d'interdire des manifestations, ça devient assez aussi une forme de violence et ça crée c'est une provocation aussi. Donc du coup, même en France, maintenant, on est comme dans une spirale de violence. Mmh. On a l'impression qu'on a importé le conflit, ce qui n'est pas étonnant parce qu'en France, on a la plus grande communauté juive et musulmane en Europe. Mmh. Donc du coup, les deux communautés se traitent mutuellement comme représentatives.
Ouais. Alors ceci dit, c'est vrai que les dérapages n'ont pas eu lieu avec cette ampleur ailleurs en Europe qu'en France, hein, concernant dans les manifestations interdites, mais les dérapages sur les réseaux sociaux, on les a partout.
Oui, tout à fait, c'est très facile. Et on voit aussi que les deux côtés ont leur version des faits. Ce qui s'est passé, par exemple, à la synagogue de la rue de la Roquette, au début, on entendait juste, oui, les Juifs étaient là pour prier, et c'était une manifestation qui a dérapé. Mais après, on a vu aussi que la prière à la synagogue, c'était clairement un événement politique, c'était une prière. Prière pour la paix, mais pro-israélien. Donc, il y a déjà des deux côtés toujours une connotation politique.
Mais tu ne peux pas échapper à cette connotation politique, parce qu'on sait bien déjà depuis des lustres que ça dure ces conflits monstrueux, on n'arrive pas à sortir, que tous les processus des pays ils sont avortés sans cesse, en fait, et justement, c'est une poudrière. Moi, j'ai discuté avec des gens au Chili, par exemple, il y a la communauté la plus importante, l'exode palestinien le plus important en Amérique
latine. Avec une grosse manifestation au Chili ce week-end, 5000 personnes.
Et à chaque fois, en fait, tu disais que le conflit était importé en Europe aussi, au Chili, à chaque fois qu'il y a un souci, en fait, c'est le Chili qui s'enflamme pour défendre justement la cause palestinienne. Et en revanche, en Argentine, au Buenos Aires, les gens s'enflamment pour défendre la cause israélienne. Donc c'est assez paradoxal de voir comment les conflits peuvent être exportés partout et en même temps voir à quel point ça enflamme les réseaux sociaux, ça enflamme les gens. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'ignorance. Oui. Moi-même, la première, il y a beaucoup de choses.
Amalgame. De
confusion, sans de sécurité.
Accentué par les réseaux sociaux et par Internet, évidemment. Exactement.
Et dès qu'il y a une attaque contre une institution juive israélienne, il y a beaucoup plus d'attention. Par exemple, le premier, c'était, on a dit une attaque contre une synagogue, c'était une canette. Oui, c'était un Molotov cocktail, on peut dire ça et comme puis, ça, mais on peut dire aussi que c'était une canette. Et on ne sait pas si c'était juste un casseur qui voulait casser. Il faut prendre ça au sérieux. Je ne veux pas diminuer l'effet, mais c'est quand même, il faut voir les deux côtés.
Oui, et puis je pense qu'à la base, finalement aussi, les organisateurs de ces manifestations-là, il n'y a peut-être pas assez de filtres aussi, de filtrage.
De professionnalisme.
Les individus qui finalement font partie de ces organisations-là, est-ce qu'ils savent vraiment, pourquoi ils luttent finalement?
Enfin, en tout cas, ça serait mieux de bien encadrer
ces
manifestations. Au lieu de les interdire, parce que là, ça crée juste encore plus de violence. Et après, les gens se sentent
62%
victimes.
Des Français se déclarent plutôt favorables à l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes. Hein. C'était le sondage des derniers jours. Là.
Donc, oui, parce qu'on n'a pas envie de voir les résultats.
C'est évident que les gens vont interdire ceci. C'est de la réprobation.
Néanmoins, toujours ce même sondage IFOP, le Figaro, 17% des Français disent avoir de la sympathie pour les Palestiniens, 12% pour Israël, 71% pour aucun des deux. Sous-entendu, on a d'autres
problèmes.
C'est ça. On a d'autres problèmes. Ouais. Comment faut-il l'interpréter?
Écoute, c'est loin aussi. C'est ça. Parce que, évidemment, il y a les réseaux sociaux, tout Internet, etc., les communications.
Mais ce 71%, il est quand même très en décalage avec tout ce qu'on voit dans les médias.
Oui, il y a beaucoup d'intox aussi dans les médias.
Et puis, je dis, c'est que les gens, ils se disent, on a d'autres problèmes aussi. Enfin, c'est pas si loin que ça.
C'est
l'excuse de bas niveau, certes, mais bon, les gens, ils comprennent plus trop, on sait plus trop où est la barre
de cette violence-là. Pour revenir à l'antisémitisme dont vous parliez au début, Ulrike Koltermann, et dont évidemment, chez vous en Allemagne, évidemment, on démarre au quart de tour là-dessus, sur les angoisses, etc., c'est bien compréhensible. C'est tout de même, on a là le sentiment que les analystes sont un peu... C'est difficile de savoir ce qui est réellement à la fois ancré dans les mentalités, cette part d'antisémitisme ou d'antisionisme, et puis la part de volatilité des convictions antisémites.
Oui, évidemment.
À la faveur des réseaux sociaux, de ce qui arrive, de ce qui disparaît.
Ou bien on prend juste un prétexte. Il y a peut-être aussi une partie de la population qui a cet antisémitisme et qui prend ce qui se passe en Moyen-Orient comme prétexte pour
s'exprimer,
se lâcher. Si on regarde par exemple l'humoriste, pour ainsi dire, Dieudonné,
qui est clairement
antisémite, ses vidéos sont vues par des millions de personnes. C'est effrayant. Et là, si lui il fait des blagues antisémites et des dérapages, ça c'est voulu et c'est ça. Là, il n'y a pas de lien direct avec les événements.
Justement, vous parliez de Dieudonné. J'en profite pour passer la parole à Prisca Ogouma parce que vous aviez envie de revenir sur l'éternel débat, mais là qui ressurgit à la lumière de l'actualité. Faut-il ou non limiter la liberté d'expression sur Internet? Le débat qui est tout le temps relancé au fil des affaires. Il y a eu l'affaire Dieudonné. Bon, il y a les forums djihadistes. Là maintenant, l'intervention militaire israélienne. Le ministère de l'Intérieur défend un dispositif de blocage des sites faisant l'apologie du terrorisme. Et vous vouliez revenir là-dessus justement, Prisca.
Oui, parce que c'est vrai que la crainte du terrorisme est bien présente, autant en Syrie, en Irak, en Europe et partout dans le monde. Bon, on dit souvent, c'est vrai que Internet sert aux djihadistes à recruter les jeunes.
Comme Internet sert à tout, d'ailleurs.
Comme à tout, d'ailleurs. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu un témoignage récemment de Salahoudine, je ne sais pas si vous l'avez entendu, un Français de 27 ans qui est parti en Syrie, qui a témoigné, qui a confirmé le fait que lui, quelque part, il a été recruté sur Internet.
Mais il n'est pas le seul.
Il n'est pas le seul. Mmh. Mais bon, la question, c'est vrai, est-ce qu'on limite pour autant la liberté d'expression? Parce que il y a une fondation, la fondation Quilliam, c'est une think tank londonienne, qui a quand même publié un rapport qui dit que la plupart des individus qui ont été radicalisés, certes, ils sont entrés en contact avec une idéologie extrémiste, mais pas uniquement sur Internet. C'est souvent en dehors de la bulle, en fait. Donc, moi, je pense que, bon, il faut pas forcément tout de suite aller sur les méthodes de filtrage et de censure. Parce que
Il faut pas,
parce que le problème, c'est que aujourd'hui, c'est très facile de créer des sites fictifs. Hein. C'est très facile d'aller sur le dark web, de développer son discours de manière...
On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a derrière.
Voilà, le conseil national du numérique dit dit de toute façon que ça sera techniquement inefficace.
Enfin, oui.
Ça semble difficile. Ils sont toujours plus vite. C'était comme avec Adopi.
Il y a toujours une façon de protéger
quelque chose, mais d'autre côté.
Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus malheureux.
Alors, vous êtes contre toutes les trois, alors, donc
de l'interdiction. Oui, il faut un contrôle, effectivement, quand il y a des symptômes.
Une surveillance.
Exactement. Il y a des symptômes comme ça, un peu d'extrémisme, etc. Oui, évidemment, il faut surveiller parce que, justement, l'Internet est tellement accès à tout. C'est ça leur prémisse première. Ils sont là. Donc, il faut le surveiller. Mais il ne faut pas non plus rentrer dans les extrêmes comme à Cuba où tout est super contrôlé.
Oui, voilà, il
ne
faut pas tout censurer
non plus. En Turquie aussi, ils ont voulu faire des lois, etc. Donc, bon, il y a les justes mesures.
Oui, les lois qui existent, ça peut être même suffisant. Il suffit de sanctionner. S'il y a vraiment des dérapages, c'est mieux de sanctionner que d'interdire.
J'aimerais dire une dernière chose, c'est que l'essentiel, finalement, c'est que les gouvernements, les leaders d'opinion, les enseignants, même les parents développent un contre-discours contre l'extrémisme et qu'on soit plutôt à l'écoute des jeunes qui sont à la recherche de leur...
Responsabilisons-nous, c'est ça.
Exactement.
Dans la vie réelle. C'est un beau message. C'est rendez-vous des tchatcheuses. On est là jusqu'à 13h en direct.
See them run for you. I can't believe that not so long ago you had me running too.
Supreme Sautier, Falula, il est my head. Paula Martinez Infante, on revient aux choses sérieuses, c'est le rendez-vous des tchatcheuses et vous souhaitez revenir sur une réalité finalement, je dirais, qui nous a tous surpris, assez méconnue, les enfants migrants qui fuient la pauvreté d'Amérique centrale pour arriver seuls, mais alors vraiment seuls, aux États-Unis. Ils arrivent quoi? Du Honduras, du Salvador, du Guatemala, des pays qui se portent particulièrement mal en ce moment.
Justement, je voulais revenir sur ces sujets parce que je pense qu'en France et peut-être ailleurs, ça c'est pas très connu, c'est une vraie crise humanitaire qui vient en ce moment, cette partie du continent américain. Et c'est le triangle du nord qu'on appelle, un triangle noir. Il y a ces trois pays où ils subissent des violences terribles aux causes du narcotrafiquant. Et la pauvreté, les conditions de vie très difficiles. Donc les enfants, ils sont contraints, les parents en fait plutôt, sont contraints de mettre les enfants dans des wagons, dans des trains qui s'appellent la bestia, la bête, pour aller faire ces parcours monstrueux vers les États-Unis. Donc ils sont recensés depuis l'année dernière, depuis mai 2013 jusqu'à aujourd'hui, les dates d'aujourd'hui, juillet, disons, 57 000 enfants qui sont partis tout seuls dans ces trains et qui, pendant ces longs trajets, parce qu'il faut rappeler qu'il y a l'Amérique centrale, c'est une sorte de bras, disons, qui réunit l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et pour aller aux États-Unis, il faut traverser le Mexique, qui est un énorme pays, qui est mais peuplé des coyotes, que c'est les passeurs, qui n'ont aucun scrupule, donc ils violent, ils font des travaux forcés, ils font des trafics d'enfants, et donc les enfants arrivent à la frontière américaine, avec dans les conditions qu'on connaît, on s'imagine aussi dans des conditions terribles. Et là, ce qui déclenchait tout cette, disons,
des enfants très jeunes pour certains.
Polémique justement parce que ces enfants de 3-4 ans commencent très jeunes et après bon certains sont accompagnés de leur mère, mais en fait depuis un certain temps c'est l'administration Obama qui a commencé à déporter ces gens-là et en masse. Et donc finalement ce qui s'est passé c'est que il y avait un flux migratoire qu'on connaît tous, hein, parce que tout le monde veut et rêve en Amérique centrale d'essayer American Dreams, donc l'Amérique ça a été c'était la terre d'accueil de pour tous ces gens-là, mais aujourd'hui avec cette politique migratoire qui se veut humanitaire, mais en fait c'est pas tant que ça.
Les autorités américaines ont normalement l'obligation de rechercher lorsque ces enfants arrivent tout seuls hein, sur le sol américain, oui, de rechercher un parent proche. Hein.
Oui, mais il y a deux cas en fait. Il y a les Mexicains qui tu peux effectivement les renvoyer sans aucun procès, etc. Il y a tous ces gens-là aujourd'hui, les Guatémaltèques, les gens d'Honduras et d'El Salvador, qu'il n'y a pas d'accord en fait. Donc ils sont obligés justement de les mettre dans des lieux des berges un peu des fortunes, dans des conditions qui ne sont pas du tout les bonnes, et en même temps de les déporter en masse parce qu'ils n'ont pas les infrastructures.
Pour des enfants qui sont menacés de mort par des gangs, par exemple, et ça reste l'Eldorado.
Et justement, et c'est qui est terrible. Parce
ça a créé un appel d'air, justement, le fait qu'il y ait ces structures d'accueil, même si elles sont largement...
Oui, et justement, il y a des témoignages terribles des gens qui disent, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Soit mon enfant, il vit dans ces pays-là où il va être recruté par les narcos, par les maras, tu sais, les gangs comme ça, et pour qu'il devienne un enfant sicaire à 11 ans, 10 ans, ou qu'il fasse ces trajets-là avec ses pires. Parfois, ils préfèrent qu'ils meurent dans ces trajets-là qu'ils vivent dans les conditions qu'ils vivent dans les pays. Donc, c'est vraiment une crise humanitaire.
Conclusion, il n'y a pas que l'Europe qui ne sait pas s'en sortir avec sa politique migratoire.
Non, pas du tout. Et c'est surtout que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas fini, quoi. C'est vraiment, ça commence à peine, c'est de la pointe de l'iceberg. Et ça a vraiment 57 000 enfants en très peu de temps. En
fait, parce que ces trois pays d'Amérique centrale reculent, en réalité. On croyait le continent sud-américain sorti de la pauvreté et de la violence.
Et oui, c'est un truc que moi, j'ai toujours dit qu'il faut surtout pas croire aux chiffres macroéconomiques. Parce que d'une part, oui, il y a des pays de l'Amérique du Sud qui se portent bien et tout ça. Enfin, bref, tout va bien. Mais en Amérique centrale, il y a un retour en arrière. Et surtout, à cause, et j'insiste, à cause des narcotrafiquants.
Ce qui est choquant aussi, c'est qu'on en sait très, très peu en Europe.
Très peu.
Très, très peu. Je me souviens pas d'avoir lu un grand reportage sur ça.
Mais c'est là où j'ai dit, les réseaux sociaux, quand même, les gens, ils font bien leur tri dans leur tête. Parce que quand ça les intéresse, ils parlent des choses qui les intéressent. Et finalement, c'est un cas quand même important. C'est les enfants, pas des enfants quand même.
Et finalement, c'est vrai que quand on parle de l'immigration, on a eu beaucoup tendance à parler de l'Afrique. Mais finalement, l'immigration africaine, il n'est pas question que ce soit des enfants aussi comme ça qui partent. C'est souvent des jeunes, des familles isolées.
Juste pour finir, ce qui m'a complètement frappé dans cette histoire, c'est que les gens finalement, quand ils ont réagi et ils disent « Ah oui, ils sont tout le monde scandalisé », c'est parce que c'est Obama, disons l'administration Obama, qui a commencé à déporter. Mais pas pour les faits que c'était des enfants qui ont été partis, quoi.
Prisca Ogouma, on reste du côté sud-américain. Retour avec vous sur un ex-dictateur, le panaméen Manuel Noriega, qu'on avait presque oublié, enfin, sauf ceux qui jouent à des jeux vidéo.
Bernie Woods, let's do it. Give me a reason to blow your head off. Come on.
Hey, what are you doing?
Sealing your reputation.
This is not the deal. Call your boss.
Et ça s'appelle Call of Duty. Qui ne connaît pas Call of Duty, célèbre jeu vidéo mondialement connu?
Exactement, Call of Duty Black Ops 2. Et effectivement, Manuel Noriega, il n'est pas du tout content. Parce que autant ex-dictateur
qu'il soit,
il est incarcéré au Panama. Mais du fond de sa prison, il dit oui, moi j'ai un droit de regard sur mon image parce que dans ce jeu qui est sorti en 2012, le joueur incarne en fait un soldat américain des forces spéciales qui se retrouve à deux doigts de tuer un Manuel Noriega, tout depuis qu'il avait tué évidemment, qui lui assassine froidement deux de ses propres soldats. Donc il est vraiment dépeint comme l'être
comme
le mal, hein, et comme il est en fait.
Et donc l'ex-dictateur panaméen dit c'est scandaleux, c'est ça?
Oui, il dit c'est scandaleux. Il dit je n'accepte pas d'être dépeint comme un ennemi du genre humain, responsable de multiples crimes haineux fictifs.
Ouais. Voilà, c'est donc, l'hôpital qui se fout de la charité.
Exactement.
En gros,
hein. Et ce qui m'arrache le sourire dans cette histoire quand même, c'est qu'en réalité, ce n'est pas tant pour son image qu'il est en train de militer. C'est une question de gros sous.
Parce si, que, bah oui, ouais, parce qu'il vient par jour.
Exactement. Il veut dire que le jeu a généré, quand c'est sorti en 2012, plus $1 million de recettes quelques semaines après la sortie. Exactement. Donc aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus. Vous restez avec nous, les chatcheuses. Retour sur l'actualité de votre choix. On parlera des 60 bougies d'Angela Merkel, du travail des enfants en Bolivie. Ce sera juste après le flash dans 3 minutes.
Tous les cinémas du monde. Sébastien Gédor.
On lui doit nos plus grands fous rires au cinéma. Émission spéciale avec la scénariste et réalisatrice Danielle Thompson. Rabbi Jacob, Le Corneau, La Boum, La Bûche, c'est elle. Sans oublier La Reine Margot, film historique sanglant de Patrice Chéreau qui ressort en DVD et Blu-ray.
Tous les cinémas du monde. Sébastien Gédor.
Samedi, à partir de 15h10 TU.
RFI.
Vous écoutez RFI, il est 10h30 en temps universel, 12h30 à Paris. Le flash présenté par Chantal Leroux. Bonjour Chantal.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Un avion d'Air Algérie a disparu des écrans radars cette nuit, 50 minutes après son décollage de Ouagadougou au Burkina Faso. À son bord, 110 passagers et 6 membres d'équipage. L'appareil était censé atterrir à Alger à 4h10, temps universel. Il n'a jamais atteint sa destination. 7 Palestiniens, dont 5 membres d'une même famille, ont été tués ce matin dans des frappes israéliennes près de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Ce qui porte à plus de 700 le nombre de morts palestiniens depuis le 8 juillet. À Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé l'envoi d'une mission pour enquêter sur de possibles crimes de guerre commis par l'armée israélienne à Gaza, tout en dénonçant les attaques aveugles du Hamas contre des zones civiles en Israël. Un convoi de prisonniers attaqué au nord de Bagdad, bilan 61 morts, 52 détenus et 9 policiers. L'attaque s'est produite cette nuit, quelques heures avant une réunion entre le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et le Premier ministre Nouri al-Maliki. L'Irak est face à une menace existentielle, mais elle peut être surmontée avec la formation d'un véritable gouvernement d'union, a déclaré Ban Ki-moon lors d'une conférence de presse. La Norvège en état d'alerte. Le pays a pris des mesures de sécurité exceptionnelles après avoir été informé d'une attaque terroriste imminente sur son sol. Attaque qui serait menée par des extrémistes qui auraient combattu en Syrie. Le Forum pour la paix en Centrafrique s'est achevé hier soir à Brazzaville par la signature d'un accord de cessez-le-feu à minima, loin des objectifs fixés. Sera-t-il appliqué? C'est toute la question. Des voix discordantes s'élèvent déjà au sein de l'ex-rébellion Séléka, pourtant signataire du texte. Le pont aérien se poursuit entre l'Ukraine et les Pays-Bas. Après l'arrivée de 40 premiers cercueils hier, 50 à 70 nouvelles dépouilles du vol MH17 doivent être rapatriées à Eindhoven. Pendant ce temps, les combats entre loyalistes et rebelles pro-russes s'intensifient en Ukraine. Les accusations d'implication directe des forces de Moscou se renforcent. Kiev affirme que ces 2 chasseurs abattus hier l'ont été par des missiles tirés depuis le territoire russe. Mais selon Moscou, les États-Unis n'ont fourni aucune preuve de l'implication des séparatistes pro-russes dans le crash du vol de la Malaysia Airlines. Polémique aux États-Unis après l'interminable agonie d'un condamné à mort en Arizona. Joseph Wood a mis près de 2 heures à mourir après avoir reçu une injection létale au lieu de 10 habituellement. Les coureurs du Tour de France franchissent aujourd'hui les derniers cols pyrénéens, 145 km entre Pau et Otakam. L'Italien Vincenzo Nibali est toujours maillot jaune.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. C'est le rendez-vous des chatcheuses aujourd'hui. 3 femmes journalistes de 3 continents commentent l'actualité en toute liberté. Elles n'ont pas leur langue dans leur poche. Paola Martinez, journaliste chilienne. Ulrike Kolterman, comme vous dites si joliment. J'aime cette musique.
Kolterman.
Journaliste allemande. Prisca Oguma, journaliste béninoise. Ulrike Kolterman, Angela Merkel a fêté ses 60 ans il y a quelques jours.
Oui, jeudi. Et je pense que son plus beau cadeau, c'est un sondage, donc elle a fêté ses 60 ans. Et le sondage.
Je pensais que vous alliez nous parler d'une crème anti-rides.
62% de soutien. Donc 62. Combien? 62. Ah. Donc presque son âge. Mais ça veut dire si tous ces gens-là aimerait voter pour elle. Bon, en Allemagne, ça se fait pas comme ça. C'est une élection indirecte.
Voilà, c'est pas le suffrage universel direct. Voilà, néanmoins,
mais si on compare
sa lune de miel avec
Hollande,
les Allemands dure depuis combien de temps?
Voilà, l'année prochaine, ça fera 10 ans qu'elle est au pouvoir. C'est quand même étonnant comment elle a fait.
Et moi, je dis que c'est une petite dictatrice. C'est de l'humour, hein,
c'est
on va préciser. Angela Merkel, 60 ans, quel est son secret de jouvence politique?
Ben, je pense qu'elle a réussi quelque chose que François Hollande a voulu faire. Lui, il a toujours, il s'est affiché comme le président normal. Ça n'a pas vraiment marché, mais Angela Merkel, elle est une chancelière normale. Elle a aucun côté bling-bling. On la voit toujours dans son blazer, elle change de couleur tout le temps. Il y a une super collage photo où on voit les blazers dans toutes les couleurs panettone.
Déjà qu'elle a le même blazer
le
look. Dans toutes les couleurs.
Le look, elle a un certain look, elle a à peu près le même
coupe de cheveux
depuis toujours. Donc elle n'est pas du
elle
tout
ne
bling-bling.
Perd pas de temps à changer de lunettes, c'est ce que vous vous insinuez.
Ça non plus. Et je pense qu'au début, on l'a beaucoup sous-estimé. Personne n'aurait cru il y a 10 ans qu'elle tiendra autant au pouvoir. Et c'est probablement aussi son côté pragmatique. Donc peut-être elle regarde un peu trop les sondages, mais elle fait des choses qu'elle sait, elle peut atteindre quelque chose. Et si elle peut pas l'atteindre, elle a pas voulu. Donc par exemple, son grand truc, c'était quand même de décider la sortie du nucléaire. C'est pas du tout dans son programme de son parti, pas du tout. Mais elle a compris après Fukushima, c'était quelque chose qui touchait vraiment les Allemands. Et du coup,
une politique au doigt mouillé,
pragmatique.
Une politique au doigt mouillé, comme on dit. L'air, la température.
Elle est pragmatique,
mais c'est ça la politique aussi. C'est pas juste un programme qui doit suivre puis la lettre. Ce qui arrive parfois dans les politiciens français, c'est que effectivement, elle fait. C'est pas qu'elle change des sujets au fur et à mesure les choses arrivent. C'est qu'effectivement, elle regarde ce qui passe autour d'elle pour changer. Je trouve que c'est un signe d'intelligence maximale.
Et peut-être pendant le flash, là, vous disiez ah non, mais je la croyais plus vieille.
Ah moi, je pensais qu'elle était plus vieille.
Elle a toujours fait vieille, c'est ça.
Parce qu'en fait, j'ai regardé un peu ce qui s'est passé autour. Et Michel Bachelet, par exemple, il a 62 ans. Donc, il paraît plus jeune qu'Angela.
De nouveau président du Chili.
Cristina Kirchner, en Argentine, elle a 61 ans. Et Dilma Rousseff, elle a 66 ans. Et de toutes ces trois femmes, j'ai pensé toujours qu'Angela, elle était plutôt près de 60 ans.
Elle n'est pas trop dans l'apparence. Par contre, elle a ses côtés très humains. Par exemple, là, il y a la Coupe mondiale. Donc, elle s'est fait prendre en selfie.
Moi, j'aime comment elle applaudit.
Dans les vestiaires. Et elle joue pas. Elle aime vraiment le foot. Et ça contribue.
Bon, alors, je vais aller au-delà du look et au-delà de la apparence. Je ne sais pas, je vais faire ma psychologue, mais je remonte un peu plus loin dans son enfance. Angela Merkel, c'est quand même la fille d'un pasteur et d'une professeure. Donc moi, je me dis peut-être que dès la base, elle a eu l'ADN
en Allemagne de l'Est, donc
de leader, de berger, et qu'elle a été un peu. Un peu leader du peuple, un peu porté sur les valeurs de rigueur et de réussite. Qui sait? En tout cas, ça lui marche bien.
Ouais, ce qui est aussi important, elle n'est pas trop, germano-allemand, ni franco-français, mais elle n'est pas trop centrée sur l'Allemagne. Par exemple, pour fêter son anniversaire, elle a invité un historien pour faire un discours, donc tout le monde a Mais c'était son truc parce que ce professeur-là, il mettait tout dans un grand contexte. Et Angela Merkel, elle ne regarde pas uniquement Allemagne. Elle regarde la place de l'Allemagne en Europe et surtout aussi la place de l'Europe dans le monde. Elle regarde, elle suit de très près ce qui se passe en Chine, en général dans les pays BRIC, Brésil, en Inde. Voilà, c'est son côté international aussi.
Bon, comment on dit bon anniversaire en allemand?
Herzlichen Glückwunsch.
Et bien voilà, on a soufflé avec elle, avec quelques jours de retard. Paola Martinez, alors vous avez décidé que l'émission était dédiée aux droits de l'enfant, je pense, aujourd'hui. Vous avez choisi exclusivement des sujets totalement dramatiques concernant les enfants.
Oui, je suis désolée, mais c'est la vie,
d'accord.
C'est comme ça.
Bon. Alors, retour sur le scandale au Mexique. Mi-juillet, de 438 enfants, ils étaient plus nombreux, 600 jeunes, mais 438 enfants libérés d'un foyer absolument atroce au Mexique.
C'est un foyer qui s'appelait la Grande Familia, la Grande Famille, et derrière ces noms idylliques, en fait, ils ont découvert un truc sinistré, complètement forcément les enfants ils vivaient dans
des conditions. Qui accueillaient des enfants des rues à la base,
oui,
les enfants
mais, non,
abandonnés.
Il y avait toute une série des, il y avait beaucoup disons sortes entre guillemets de recrutement, c'est-à-dire les femmes évidemment encore une fois la pauvreté, les narcotrafiquants, etc. On revient toujours au même sujet, au même fléau de ces pays-là. Et donc quand les gens ils pouvaient pas s'occuper des enfants, il est donné à cette femme, la Mama Rosa qui s'appelle. Donc elle prenait en charge en fait l'éducation de ses enfants. Il y avait 600 personnes, 400 enfants entre eux, des bas âges aussi, et qui vivaient dans des conditions complètement infrahumaines, enfin précaires totalement. Et ils dormaient même au sol avec des rats et des punaises, sont faits autour. Et surtout, ce qui a beaucoup alerté à ces gens-là, qui étaient prisonniers, ces enfants, en fait, ils pouvaient pas sortir. Et donc, les parents, ils étaient, disons, ils voulaient parfois prendre des nouvelles, ils avaient interdiction de parler à l'extérieur. Ils les faisaient travailler aussi, les petits enfants.
Les parents
ils
étaient, ils étaient les abus sexuels. Pourquoi la fameuse Mama Rosa, donc, a reçu des manifestations de soutien?
C'est une chose étonnante, je ne comprends pas. C'est, les gens sont complètement fous.
Curieux, ces Mexicains.
C'est très curieux, c'est très mais en fait, c'est parce que les systèmes d'État, disons, d'accueil d'enfants, ils fonctionnent tellement mal, qu'ils étaient les mâles mineurs dans cette histoire. Donc on disait que oui, Mama Rosa, elle recevait tout le monde, était très généreuse, etc. Et que peu importe comment il était accueilli ses enfants, mais elle faisait le travail que l'État ne faisait pas, en fait, ouais. En quelque sorte. Ouais. Et elle a été entendue pendant une semaine, elle était hospitalisée, et finalement il n'y aura pas de poursuite pour elle, parce qu'elle s'est décrétée avec des démences séniles. Donc du coup, il n'y aura pas de procès. Et pour l'instant, les centres, il est fermé. Les gens qui veulent, il y a plusieurs qui restent parce que ils les doivent beaucoup à ces Mama Rosa qui les a accueillis. Donc, il faut savoir quand même les conditions extrêmes dans lesquelles vivent les gens aussi dans certains endroits. C'est à Michoacán. C'est dans l'ouest du Mexique, très près aussi de la frontière parfois. Donc, où il y a tout cet amalgame qui s'est fait, des enfants qui arrivent, les narcotrafiquants, l'exode famille, etc. Donc, c'est vraiment des conditions très difficiles. Et j'étais étonnée quand même d'entendre que Clésio, en fait, les prix Nobel de littérature, il y avait donné cette structure. Il y a Fox, l'expression mexicain, qui dit, écoutez, Mama Rosa, on est tous avec vous parce que vous faites beaucoup pour notre pays. Mais là, c'est des gens qui sont aveugles. Je comprends pas, en fait,
c'est soutien. Bon, c'est dramatique. Mais
alors,
bon.
On continue, ceci dit, parce qu'on est, les sujets filent vite, le temps passe vite. Paola Martinez, bon, c'est clair que là, évidemment, c'est épouvantable. Je vois pas très bien ce qu'on. Il y a pas vraiment sujet de
ouais,
débat.
Y a pas de
mais
débat.
On continue avec, puisque donc vous avez décidé que l'émission était dédiée aux droits de l'enfant aujourd'hui.
Oui.
La Bolivie. Alors là, il y a un vrai débat. Autorise le travail des enfants dès 10 ans au lieu de 14 à l'heure actuelle. Le travail des enfants en Bolivie, c'est quoi? C'est les fameux tireurs de chaussures sur de la passe, mais
c'est
aussi
les vendeurs,
plus dur, les enfants dans les briqueteries,
dans les
etc.
Mines.
Les ONG s'offusquent, mais c'est pas si simple quand même.
C'est pas si simple. Moi, je reviens sur un sujet, on a déjà traité ici sur les chatcheuses, c'est en décembre dernier, il y a des enfants qui sont sortis de la rue pour réclamer justement et défendre leur travail enfantine. Il a été entendu, c'est un syndicat d'enfants, il a été entendu par Evo Morales, et finalement, ces codes-là qui étaient destinés d'abord à prohiber et à interdire ce travail enfantin, des moins de 14 ans. Aujourd'hui, la semaine dernière, a été accordée, cette loi elle est promulguée, donc les enfants des moins de 14 ans, savoir 10 et voire moins d'âge, en fait plus jeunes, ils peuvent travailler.
Ouais, alors la loi parle d'autorisation exceptionnelle.
Autorisation.
Elle ne dit pas que tous les enfants vont être autorisés à travailler légalement.
Ça a mis du temps, ça a mis 7 mois, disons, un peu à mûrir cette histoire, parce qu'en fait, la Bolivie, quand même, fait partie des conventions des droits d'enfants dans lesquelles, effectivement, il interdit le travail pour les moins de 14 ans.
Mais, c'est pas si clair que ça, la Convention des droits de l'enfant. La Convention des droits de l'enfant, oui, elle dit que ce sont les pays qui déterminent et elle interdit le travail dangereux pour les enfants.
Et voir les conditions des Boliviens, parce que les Boliviens, ils ont toujours travaillé les enfants, ça fait partie de leur culture.
Alors vous en pensez quoi, vous? Vous êtes
moi,
debout comme les ONG ou pas?
Je me dis d'un côté, c'est une sorte d'esclavage un peu caché, ça peut aussi arriver.
Moi, c'est pas
caché
que ça.
Mais parce que justement, les enfants, ils défendent leur droit de travailler. Après, s'ils travaillent
pas,
mais quand le gouvernement, mais le gouvernement donne pas des structures. Justement, c'est ça le problème. Ça, c'est un vrai fléau. Je suis contre ce truc parce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il a trouvé? L'issue la plus rapide et la plus facile. On dit, OK, vous pouvez travailler, mais en revanche, on donne rien en retour. C'est-à-dire, il y a rien des structures pour les accueillir.
Ouais,
il y a pas
des structures
pour les scolaires. Il y a pas de structures d'allocation pour les familles et tout ça.
Oui, d'accord. Enfin, moi, je veux qu'on arrête de s'offusquer pour, bien sûr, c'est des enfants, mais à un moment donné,
qu'est-ce que vous voulez qu'on légalise, voilà, qu'on légalise le travail des enfants pour éviter justement le travail forcé, ben, la maltraitance, l'esclavage et les réseaux qui peuvent exploiter les enfants, ou voilà, à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut. Moi je pense que bien sûr c'est des enfants, mais si les enfants réclament, s'ils ont envie de travailler, ce sera des tâches qui leur
c'est pas une question d'envie. Ah, j'ai envie de travailler, disons je vais le faire. Ils ont obligé de le faire parce que autour, en revanche, en échange de ça, il n'y a rien d'autre qui les proportionne.
Ben oui, donc justement, il vaut mieux le légaliser pour encadrer ça, moi je pense.
Non, alors, si on est tireur de chaussures à la Paz pour son compte, ça peut se discuter, mais c'est pas forcément ça, Ulrike.
Non, je pense que c'est absolument cynique de dire il faut écouter ce qu'ils disent les enfants. S'ils veulent travailler, ils peuvent pas s'exprimer. Ils connaissent pas une autre vie. Pour eux, c'est ils doivent survivre, ils doivent apporter de l'argent à leur famille, mais ils connaissent pas une autre vie. Donc oui, peut-être ils disent, ils réclament un droit, mais ça serait idiot de légaliser pour cela le travail.
On passe de 14 à 10, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même un recul en arrière.
Ça, c'est de l'âge où on va à l'école, point barre.
Ulrike Koltermann, il y a un débat en ce moment en Allemagne sur la meilleure façon de scolariser des enfants handicapés, c'est-à-dire avec tout le monde, dans des écoles entre guillemets dites normales, ou dans des écoles spécialisées.
Oui, tout à fait.
Il faut préciser qu'en Allemagne, l'éducation est régie de toute façon dans chaque Länder de façon différente. Hein.
Voilà, on est toujours un peu compliqué. Et l'Allemagne joue un rôle un peu spécial parce qu'en Allemagne, il y a peu d'enfants handicapés qui sont scolarisés avec tout le monde. Donc, on a beaucoup de centres spécialisés. Et par exemple, aux pays scandinaves, on est à 95% d'enfants handicapés qui sont dans des écoles ordinaires. Et maintenant, il y a aussi une convention Nations Unies. C'est un droit, une lutte contre la discrimination. On veut ouvrir.
Est-ce qu'ils sont accompagnés dans les structures normales, entre guillemets?
C'est ça le problème.
Les écoles ordinaires en France, il y a des auxiliaires de vie qui accompagnent les enfants
mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les centres spécialisés, parce que on peut dire c'est la discrimination, mais on peut voir ça aussi un côté positif. On peut dire ils sont beaucoup plus encadrés, entourés, parce que les profs sont spécialisés et peut-être ils vont être mieux encouragés.
Ça dépend de la nature et de la gravité du handicap.
Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est au niveau international, on lutte contre la discrimination et on veut mettre tout le monde à l'école ordinaire, mais il y a même des familles, des parents d'enfants handicapés qui maintenant veulent que leurs enfants restent dans les centres spécialisés parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui s'occupe d'eux.
Donc c'est un vrai débat alors.
C'est un vrai débat. On est en train d'ouvrir les écoles ordinaires pour tout le monde, sauf qu'on n'a pas les moyens de mettre tous ces éducateurs spécialisés. Oui, il y a des exemples qui marchent très bien, mais c'est très très coûteux.
Une belle idée, mais à mettre en place, c'est compliqué. En fait.
Voilà, c'est très cher. Il faudrait former énormément de monde.
En France, les familles se plaignent du manque d'accompagnement dans les écoles ordinaires, sans pour autant regretter les centres spécialisés.
Il y a aussi un risque.
À terme, l'objectif, c'est quoi? C'est de fermer ou en tout cas de diminuer le nombre de places dans les centres spécialisés?
Oui, tout à fait, parce que le chemin, c'est clair. On va fermer de plus en plus de centres spécialisés et mettre tout le monde à l'école ordinaire, ce qui est une belle idée, mais il faudrait avoir beaucoup plus d'éducateurs.
Ceci dit, à l'échelle européenne, l'Allemagne fait partie des pays avec l'Autriche et l'Irlande qui ont encore cette approche assez limitée de ce qu'on appelle l'inclusion comparée au reste de l'Europe. Vous êtes un peu à la traîne, finalement.
À la traîne, oui, mais en même temps, on peut dire que dans ces centres spécialisés, ils sont quand même très très bien encadrés. C'est pas, on peut dire qu'ils sont mis à l'écart, mais on peut dire aussi qu'ils sont beaucoup mieux encouragés.
Je vais parler de d'expérience personnelle parce que j'ai moi-même un frère et une sœur handicapés qui ont vécu avec nous à la maison, parce qu'en Afrique évidemment on n'a pas encore les moyens d'avoir autant de centres spécialisés et tout. Et moi, de ma propre expérience personnelle, je pense que le fait d'intégrer les enfants handicapés avec les autres enfants normaux force le cerveau quelque part à réagir, et que pour moi aujourd'hui c'est vraiment en apparence que moi je vois mon frère et ma sœur handicapés, parce qu'ils ont beaucoup évolué.
Ils sont allés à l'école.
J'ai mon frère qui est allé dans une école normale, qui a suivi quelques classes.
Porteurs d'un handicap physique ou psychique ou
c'est plutôt une sorte de trisomie, je dirais, mais qui ont été acceptés. Donc le travail qu'il faut faire aussi, ce n'est pas seulement d'avoir des des enseignants spécialisés, c'est faire un travail auprès des autres enfants pour la transmission des valeurs de tolérance et d'acceptation.
Oui, justement, on est d'accord.
Au niveau des compétences sociales, c'est sûrement mieux parce qu'il faut aussi que les enfants qui n'ont pas de handicap, qui s'habituent à l'idée qu'il faut leur apprendre la différence.
Contrairement aux centres spécialisés où on ne voit pas ces enfants-là, finalement,
c'est toute la question de quels sont les genres et les niveaux d'handicap.
Est-ce qu'on peut terminer avec un sujet plus léger, les filles, si possible? Prisca Ogouma, c'est bientôt les vacances et heureusement que vous êtes là. Enfin, c'est bientôt les vacances pour certains, pas pour tous, mais vous êtes là avec une question, je trouve, mais parfois angoissante, ne riez pas, que vous posez. Est-ce qu'il faut débrancher pendant les vacances? Débrancher les réseaux sociaux, débrancher le portable, débrancher les mails.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites, les filles? Et franchement, le portable, le piège insidieux et séduisant, n'est-ce pas? C'est grisant. Au début, on se sent comme Dieu, on est productif, on est puissant, on est partout, on vérifie compulsivement ses emails,
on met la 4G,
on est sur Facebook et tout ça. Mais on l'avoue, c'est comme une drogue. Mais
qu'est-ce qu'on fait quand on part en vacances?
Ben, quand on part en vacances, il faut, je sais pas, chacun doit trouver sa formule, mais.
Non, mais ça, c'est une façon de pas se mouiller, là.
Moi, j'ai des propositions. J'ai des propositions. Je sais pas, par exemple, on peut décider de prendre un jour complet de sevrage. On était sans smartphone toute la journée. Je vois que c'est difficile. On éteint son smartphone, on se reconcentre sur soi, on se concentre sur les autres, ou alors on prend une activité physique qui n'est pas du tout liée au visuel. Ça a été dit par les spécialistes, par exemple, je sais pas, le sport, le jardinage, une randonnée en famille, ça permet de lâcher le
vous
virtuel.
Vous êtes plutôt débranché ou pas, vous?
Très débranché
pendant les vacances.
Aucun problème à débrancher mon appareil.
Et sinon, j'ai une autre solution, vous vous enfermez toute la journée avec votre amoureux, vous faites l'amour toute la journée.
Ça sera presque le mot de la fin. Vous restez encore un petit peu avec nous jusqu'à la fin de l'émission, les tchatchos.
Avec plaisir.
Dans quelques instants, reportage sur une nouvelle forme de tourisme à Paris. C'est la saison, après tout. Un quartier de Paris raconté par ceux qui ne connaissent que la rue. Ça sera à découvrir juste après Money on My Mind, Sam Smith.
When the summer dew, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say, I'm sorry about you that I believe. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see? I don't have. Please don't get me wrong, I wanna keep it moving. I know what that requires, I'm not foolish. Please can you make this work for me? Cause I'm not a puppet, I will work against your strings. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see? I don't have.
Il fait chaud, il fait beau, c'est peut-être le moment de découvrir un quartier populaire de la capitale grâce à une entreprise sociale fondée il y a un an qui s'appelle l'Alternative Urbaine. Retenez bien ce nom, Alternative Urbaine, et avec pour guide une personne sans domicile fixe. C'est le cas de Vincent et le reportage est signé Antoine Lalanne.
J'essaie de faire en sorte que ce soit vivant pour les gens, non pas les assommer à coups de date, de nom, etc.
Alors Vincent, nous sommes dans le 20e arrondissement de Paris, devant la mairie Place Gambetta. On va partir pour faire une promenade urbaine avec l'Alternative Urbaine. C'est toi qui vas nous guider. Qu'est-ce que c'est l'Alternative Urbaine?
Ça répond à deux objectifs. Faire visiter Paris de manière un peu alternative. Et l'autre aspect, c'est de fournir une sorte de marche pour la réinsertion des personnes en difficulté, pour les F. Voilà.
C'est parti alors pour la promenade.
Je m'appelle Selma, j'ai 25 ans et j'ai fondé l'Alternative Urbaine il y a un an. C'est une entreprise sociale qui propose des balades urbaines dans Paris guidées par des personnes sans domicile fixe. Le but de l'Alternative Urbaine, c'est de faire de la réinsertion à travers la culture. Ça existe à l'étranger, en fait, ce genre de visite où des sans-abri présentent leur vie dans la rue. En fait, ils expliquent où est-ce qu'ils dorment, où est-ce qu'ils ont mangé pendant des années. Et j'ai trouvé que c'était un peu stigmatisant. Là, ils présentent vraiment Paris. Parfois, il y a des gens qui ne savent pas que le guide est une personne sans domicile fixe et qui ne s'en rend pas compte. Et je trouve que c'est très valorisant et que ça change complètement la donne, en fait. On ne réduit pas son statut de sans domicile fixe. Ça permet une resocialisation et une réinsertion beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, parce que c'est une personne normale qui est en train de travailler, tout simplement. C'est pas juste un SDF qui est en train de raconter sa vie dans la rue.
On se dirige vers où ?
Vers le parc de Belleville, qui a été ouvert en 88. Et ici, en fait, c'est un point de rencontre pour toutes les fêtes un peu populaires qu'on a eues dans le 20e, en fait. Dans ce parc, on a 10 pieds de vigne. Donc, il y a une cuvée, parc de Belleville, en septembre. On est à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tu vois la tour EDF qu'on voit au fond ? C'est là, en fait.
À Meudon, c'est là où tu habitais dans une tente ?
C'est ça, ouais. Il y a un bois à côté, donc bon, déjà, un bois, c'est idéal. C'est là où il n'y a pas beaucoup de passages. J'étais un peu en pente, donc forcément, quand il pleuvait, pas cool, quoi. Trouver un emploi et trouver un logement, ça veut dire déjà qu'il faut avoir envie de sortir de la rue.
Ah, est-ce qu'on peut ne pas avoir envie de sortir de la rue ?
Quelque part, c'est inconfortant, parce qu'on n'a pas affronté la vie en général, quoi. On n'a pas affronté une facture d'électricité, on n'a pas affronté un loyer. Pour moi, c'était une fuite.
Mais désormais, t'es plus dans ta tente de Meudon ?
Non, maintenant, j'ai un foyer maintenant. On est deux par chambre, alors une chambre de 12 mètres carrés, donc tu vas avec.
Comment se passe cette visite avec Vincent dans le 20e arrondissement de Paris ?
C'est une très très bonne surprise. On découvre plein de petits endroits, plein de petites anecdotes sur le 20e que personnellement plus je connaissais pas, et je trouve que c'est une façon super sympa de découvrir un quartier de Paris dans lequel je mets pas très souvent les pieds.
Est-ce que c'est différent de faire une visite avec un sans-abri ?
Bah alors, en toute honnêteté, Vincent le voit comme un guide. C'est quand même extrêmement bien documenté. On est en train de faire une balade super chouette avec quelqu'un qui n'est pas guide à la base, mais qui l'est devenu et qui a beaucoup de choses à nous apprendre.
On ne peut pas s'ennuyer à Belleville, c'est pas possible. Il y a toujours un truc à faire.
Combien tu gagnes par mois avec l'Alternative Urbaine ?
Alors, j'ai un fixe de 10 euros de l'heure. La dernière fiche de paye, c'était à peu près 280 euros. Ça aide surtout mentalement, en fait, c'est ça le truc. Parce que quand tu te retrouves à la rue, tu perds confiance en toi. Tu te dis, je suis plus bon à rien, est-ce que je me retrouve là, c'est de ma faute. Et au fait d'avoir déjà un petit travail, ça prouve que c'est motivant, on est actif. La deuxième chose, c'est que on rencontre des gens, on fait partager des choses, ils nous font partager des choses. Quand les gens avec qui tu fais de la balade, après, te disent merci beaucoup, c'est super. C'est réconfortant, quoi.
Et l'Alternative Urbaine vient d'embaucher un deuxième sans-abri, Pascal, et s'apprête à élaborer de nouveaux parcours dans les quartiers de la Goutte d'Or, dans le 18e, à la Villette, dans le 19e. Et pour connaître les jours, les horaires des visites, il y a un site internet alternative-urbaine.net. Vous allez vous inscrire?
Ouais, je suis très honorée. Hein. J'habite pas loin, ouais. Et j'ai très envie de découvrir mon quartier.
Une très belle initiative.
Et puis alors il a suivi une formation et ensuite il va se suivre une deuxième formation, Vincent, pour devenir éducateur. Donc
bravo,
voilà, c'est le début du marche-pied.
Elle a 25 ans, c'est
impressionnant.
Très bien. Bonne idée. Ouais. Et puis en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une initiative qui existe dans d'autres pays, relativement stigmatisante parce que finalement...
C'est l'SDR.
Oui, et là on oublie.
Ouais, mais c'est sympa aussi ce qu'il dit, la personne qui est interviewée, elle a jamais dit que ça lui posait un problème, en fait. Elle l'a pris comme un guide, quelqu'un de différent, et c'est tout. C'est sympa aussi l'approche qu'il peut avoir les gens, finalement,
des gens qui croisent tout le temps.
Mais vous qui vivez à Paris, vous auriez l'idée de suivre
un guide, une balade urbaine dans le quartier peut-être même où vous vivez tous les jours.
Oui, je suis sûre qu'on a un autre regard et c'est toujours intéressant de changer de perspective.
En général, quand on vit quelque part, on connaît pas forcément l'endroit au fond, parce qu'on y est, on se dit on a le temps.
C'est le supermarché.
Voilà, exactement. On a le temps de découvrir et là c'est une bonne manière de découvrir. C'est clair.
Merci à toutes les trois. Paola Martinez, journaliste chilienne, Ulrike Coltermann, journaliste allemande, Prisca Ogouma, journaliste béninoise qu'on retrouve sur Canal Plus Afrique. Vous revenez le mois prochain si vous êtes disponible, si vous n'êtes pas
avec
en reportage. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Laurent Bartoleschi, pour toutes vos réactions. Vous savez que vous pouvez toujours nous écrire sur notre boîte mail, 7milliards@rfi.fr, et réécouter toutes les émissions en podcast sur rfi.fr à la page des 7 milliards de voisins et vous informer davantage sur les sujets que nous débattons avec les tchatcheuses, parfois de façon un peu survolée car le temps presse, mais vous savez qu'il y a toujours les dossiers sur le site rfi.fr, très documenté. Demain, 7 milliards de voisins, comme chaque vendredi, nous parlerons d'éducation et demain, il sera question des étudiants européens dans les campus africains. Ils ne sont qu'une poignée, assez visibles en général. Alors, pourquoi ont-ils fait ce choix durant plusieurs mois? Comment s'intègrent-ils? Évidemment, les voisins étudiants, si vous avez des camarades dans ce cas, sur votre campus, vous nous appelez tout de suite au 33 1 84 22 71 71. Étudiants européens ou nord-américains dans les campus africains. À demain.